Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Alors nous allons traiter aujourd'hui et la semaine prochaine, parce que nous avons déjà choisi les albums dont nous allons parler, de sujets et de personnages qui sortent véritablement de l'ordinaire, dont nous n'allons pas nécessairement vanter les mérites, mais enfin qui méritent néanmoins qu'on se penche sur leur parcours assez unique, c'est le moins que l'on puisse dire, avec pour commencer aujourd'hui la Divine Comédie d'Oscar Wilde de Javier de Isouzi. Je ne sais pas exactement comment on prononce ce nom qui est manifestement espagnol, ça on en est certain, une parution Rackham. Alors l'occasion de parler un tout petit peu de ce petit éditeur que nous ne mentionnons pas souvent, Thierry.
Oui, c'est réparer une injustice parce que Rackham c'est un, dans la BD indépendante, j'emploie ce terme faute de mieux, pionnier des romans graphiques. Rackham c'est un éditeur qui a un très beau parcours. Et c'est vrai que je bats ma coulpe, je devrais me pencher plus souvent sur leur parution, non pas que je ne le fasse pas systématiquement, mais au moins en y penser pour nos chroniques. C'est un magnifique album, un gros album, consacré de surcroît à un auteur qu'on adore tous les deux. Je ne me suis pas concerté avec vous, mais...
Bah écoutez, je l'ai découvert il y a bien longtemps, en particulier avec les voyages de Juan Santerre.
La vérité m'oblige à dire que vous me piégez en citant ce titre.
C'est un juste retour des choses, mais c'était à une époque où il faisait du noir et blanc, et désormais il est beaucoup dans l'aquarelle.
Oui, alors ça participe beaucoup à l'intérêt de ce livre, très riche en détails pittoresques, lamentables, à l'image de Wilde lui-même. Ça participe beaucoup à l'intérêt de ce livre qui est très beau, je le disais, et en même temps est d'une beauté vénéneuse. Mais on s'en expliquera plus avant.
On peut rappeler que Oscar Wilde, puisqu'il va être question de lui, est un poète irlandais qui est mort en 1900. Au tout début donc du XXe siècle, à l'âge de 46 ans, et à Paris. Et là, nous sont comptées les trois dernières années de sa vie. Je ne crois pas que l'on puisse dire que ce soit les plus belles.
C'est en préparant cette émission que je me faisais la réflexion. Un des livres les plus célèbres d'Oscar Wilde, c'est le portrait de Dorian Gray. Et le portrait de Dorian Gray, c'est vraiment le symbolise la vie, le parcours artistique et privé, personnel de Wilde. Le rapport entre la morale et la beauté. Je pense que cette question a agité Wilde tout au long de sa vie. Et était-il imaginable qu'il ne finisse pas dans une totale déchéance? Il y a une certaine logique dans son parcours. Wilde, c'est un auteur majeur qui débarque sur un coup de tonnerre sur la scène littéraire britannique, enfin du Royaume-Uni, puisque c'est vrai que vous le rappeliez, il est irlandais, avec quelques œuvres de poésie, quelques œuvres diverses, mais surtout le portrait de Dorian Gray, qui a un succès de scandale, parce que le sujet, cet homme, Dorian Gray, qui est beau comme un dieu, qui décide que son portrait vieillira à sa place, une variation sur le mythe de Faust, c'était sulfureux pour l'époque. Il enchaîne avec Salomé, écrite en français, qui est aussi une méditation sur le rapport entre la beauté et la morale. Il connaît un succès plus établi et puis plus respectable, j'allais dire, avec ses comédies comme L'éventail de Lady Windermere ou L'avantage d'être constant. Bref, Wilde, c'est une figure centrale de la littérature anglaise. C'est quelqu'un qui a une vie bien remplie, une vie privée bien remplie, qui cultive une certaine sobriété dans les apparences. Il se marie, qu'il a des enfants, mais qui en même temps s'affiche ouvertement avec ses conquêtes homosexuelles, et notamment ce qui va être le déclencheur des gros ennuis, et c'est un euphémisme dans mon esprit, de la tragédie qui va détruire sa vie. Il s'affiche avec Lord Alfred Douglas, dit Bozzy. Il dépense sans compter. Il faut imaginer ce que ça pouvait représenter dans la société victorienne. Jusqu'à ce moment où le père de Lord Alfred Douglas lui envoie une carte de visite en écrivant sur cette carte « Oscar Wilde sodomite ». Et Wilde ne se démonte pas et va lui faire un procès pour diffamation. Et ce procès, au lieu d'être l'occasion de faire profil bas et peut-être de sauver les apparences, Wilde va en faire un théâtre où il va nous régaler de bons mots. Wilde, c'est quelqu'un, si on n'est pas capable de citer spontanément quelques-uns des titres de ses œuvres, on est capable de citer ses meilleurs mots. Je crois que, en préparant cette émission, je me faisais la réflexion. Quand on cite un aphorisme ou un bon mot, il y a 50% de chances que ce soit du Oscar Wilde, 50% que ce soit Sacha Guitry. Et si vous avez un outsider, ça peut être Alphonse Allais. Voilà, c'est la quintessence de l'esprit brillant, drôle. Il fait de la cour un théâtre et il a bien tort parce qu'il va être descendu en flammes par le jury et il va être condamné aux travaux forcés. On imagine comment lui l'a vécu, ce que ça pouvait représenter. Ça va être l'acte de décès de sa carrière artistique. Il va encore rédiger la ballade de la geôle de Reading. Et il va s'exiler à Paris. Et ça va être les trois dernières années de sa vie qui nous sont comptées dans ce livre que nous détaillons aujourd'hui.
Comme quoi, avoir un esprit brillant ne suffit pas.
Non, les mœurs victoriennes étaient trop fortes pour lui.
Alors à Paris, il va côtoyer pendant ses dernières années de sa vie un certain André Gide, mais aussi Toulouse-Lautrec, les frères Machado également. Pour autant, ça ne va pas beaucoup l'aider.
Non, je pense que Wilde, et c'est ce qu'on voit dans ce livre, il est pressé par ses amis, ses proches, ses connaissances, qui viennent d'ailleurs, c'est un procédé narratif très efficace dans ce livre. On suit chronologiquement les dernières années de Wilde, et à intervalles réguliers, on voit ses témoins convoqués, alors pas comme un procès, mais comme une façon de rappeler leur perception de Wilde à ce moment-là, qui viennent témoigner de leur relation, du fait qu'ils ont essayé de le pousser à écrire toujours. Et puis, est-ce que Wilde leur répond, mais je ne suis pas légitime à écrire, de toute façon, je suis vide, et puis tout est superficiel, et puis à quoi bon tout ça? C'est un combat contre les tentations faciles, parce que Wilde va renouer avec l'ordre d'Alfred Douglas, mais c'est une passion dispendieuse qui va le précipiter encore plus vite vers la chute.
Il va être trahi.
Il va être trahi. Il va s'abîmer dans des relations tarifées avec des prostituées parisiens. Il va être détruit physiquement par l'absinthe, la fée verte. C'était la substance maudite à l'époque. Enfin, il n'était pas le seul à en consommer d'ailleurs. On parle de Toulouse-Lautrec et bien d'autres. C'est poignant, c'est déchirant. C'est en même temps, ça fait réfléchir, comme Wilde l'a réfléchi lui-même, à qu'est-ce que l'art, comme lui disait, la vie imite l'art. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que j'ai encore quelque chose à dire face au monde? C'est un album magnifique, je le disais. On parlait de la réalisation de cette espèce de sépia qui est à la fois sobre, subtil, et en même temps, je pensais en regardant cet album au portrait de Dorian Gray, ce portrait qui se dégrade petit à petit. C'est voilà, ces couleurs sépia, il y a quelque chose déjà de morbide dans cette ambiance. C'est un livre tout à fait admirable sur un être assez admirable et assez haïssable en même temps.
Tout à fait, oui. Alors, il y a une réflexion, je trouve, dans cet album et autour de Oscar Wilde, évidemment, une réflexion qui porte sur l'être et le paraître. Le paraître a pris beaucoup de place dans la vie de cet homme-là. Et au final, à la fin de ses jours, comme peut-être ce à quoi nous serons tous confrontés, on se demande ce que l'on a été en réalité.
Oui, c'est comme tous les très bons albums que nous chroniquons régulièrement. C'est un livre qui conduit à se poser des questions fondamentales sur l'existence et sur ce qu'est un humain et un humain parvenu au terme de son parcours terrestre. Wilde s'est posé des questions très profondes. Son dandysme, c'était une façade aussi, probablement. Cette recherche éperdue de la beauté éphémère, est-ce que c'est pas une métaphore de la destinée humaine? Le terme, il est fixé, c'est la mort. Est-ce qu'on n'essaie pas de repousser par l'art, par la quête du plaisir, cette échéance? On essaie de ne pas y penser. Comme disait Yankelevitch, je sais que je vais mourir, mais je n'y crois pas. Et le destin de Wilde, c'est ça. C'est un frère parmi d'autres dans l'humanité qui se pose les questions. Lui le fait brillamment parce que c'est un esprit brillant, mais c'est un album qui incite à se poser beaucoup de questions nous-mêmes.
Oserais-je citer un poète d'une autre époque qui disait « Vanité des vanités, tout n'est que vanité ».
Vanitas, vanitat. J'ai un doute, j'allais le dire en latin, j'allais faire mon cuistre, et j'ai un doute quant à la prononciation en latin. Voilà, je suis puni.
Je n'oserais pas, c'était écrit, je pense, en hébreu à l'origine.
Vanitas, vanitatum et omnia vanitas. Oui,
voilà. Ah, voilà, ça revient.
Si j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à me corriger.
Alors oui, c'est un album très réussi, un gros roman graphique, hein, comme on a tendance à dire, et qui a été prix de la bande dessinée en Espagne en 2020, un prix attribué par le ministère de la Culture espagnole. Donc vraiment, la lecture, on peut vous la conseiller, sachant que c'est pas forcément une lecture très réjouissante, mais une lecture qui conduit à la réflexion, une réflexion qui, au-delà d'Oscar Wilde, nous concerne tous, vous l'avez bien saisi. Une parution chez Rackham, et je rappelle quel en est l'auteur, en essayant de faire un petit effort de prononciation, Javier de Isusi. Voilà, je pense que c'est bien comme cela que vous le retrouverez chez votre libraire préféré. Merci Thierry, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre destin étonnant.